RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Eh bien, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Il ne pleut pas. Voilà. Je peux même vous dire que c'est très sec. Je suis torse nu tellement il fait chaud. Oh, c'est incroyable. Ah. Mon technicien aussi, lui. Il a juste gardé son slip, c'est tout. Ouais, parce que, bon, quand même, faut pas exagérer, quand même. Hein. Bon. Remarquez, bon, il y a le micro qui cache le bas et le casque qui cache ses oreilles. Bon. C'est déjà bien. Alors, je vais vous lire un poème de Michel Gendarme. C'est un poète. Bon, oui, comme tous ceux qui écrivent des poèmes, la plupart sont poètes. Hein. Bon, il y en a des fois, ils sont charcutiers ou mécaniciens. Mais bon, ils ont le droit d'être aussi poètes. Hein. Bon, regardez, moi j'ai une sale gueule et pourtant je fais de la poésie. C'est pas compatible, normalement. Hein. Encore que si, vous avez vu la gueule à Prévert ou à Richepin ou à... Non, comment s'appelle là, l'autre, là, Baudelaire. Hein. Et puis l'autre, le copain... comment, à Rimbaud, hein? Bon. Puis en plus, c'est pas grave, parce qu'à la radio, vous voyez pas la gueule du mec. C'est pas gênant. Alors, Michel Gendarme. Alors lui, il met pas de titre. Il y en a, ils sont un peu feignants hein, sur les bords. Ils mettent pas de titre, voilà. C'est vrai que c'est toujours le titre qui est le plus difficile à trouver. Hein? Ou alors, on prend une phrase au hasard du poème et on le met comme un titre. Hein? Alors, par exemple, je sais pas, moi... Petite peau du bonjour, petit masque du bonsoir, ça aurait pu être le titre, oui. Bon, tant pis, allez, je vous le dis. Sur le rivage, je prends la lumière, dans les flaques, je baigne mes souvenirs. Je ne les donne pas aux vagues, trop avides à effacer. Ce que je ne peux perdre, vague, prenez-moi entier ou ne me prenez pas. Vague, absorbez mon corps, ne laissez rien sur le rivage. Pas même quelques vêtements. Mais je n'ai pas obligé de les retirer, ces vêtements, hein. Bon. Petite peau du bonjour, petit masque du bonsoir, vague. Attention à votre rumeur grondante. Dans les flaques, je vous vois venir. Je poserai mes mains sur la blancheur de l'écume. Les mots seront plus faciles. Encore quelques pas sur la grève et je te découvrirai. Petite fille, saute la vague, saute. J'ébroue vos premières sensations. Hop ! C'est que l'eau est froide. Je t'entends depuis un bon moment, grondant et roulant. Encore quelques pas derrière la dune, je viens à toi, dans les sentiers sans parole, les gestes fragmentés, la marche lente, petit garçon rempli de seaux, le vide dans la flaque, flop, c'est que l'eau est lumière. Je poserai mes pieds sur la chaleur du rocher, les mots seront des étoiles, tu me dépouilleras de tout ce qui m'appartient, encore une fois, hop, l'écume, s'envole, petite fille court après ses doigts, petit garçon plonge, hop, je laisse mon âme sur le sable, je cours après le seau, hop, je plonge mon corps dans les bras d'amertume, les mots, hop, dans le seau. Voilà, c'est joli, hein. On pourrait presque le faire lire à des enfants, ça, tellement c'est beau. Hein. Le petit garçon, les petites filles, d'ailleurs. Hein, alors, là, j'ai une autre... Alors ça, c'est une revue, ça s'appelle L'Étrave. Alors, la revue, là, elle date de 2004, hein, c'est pas nouveau. Hein, je sais même pas si cette revue existe encore. Bon. Ça s'appelle Poète sans frontières. Et alors, j'ai une certaine Marie-Claude Arnaud qui a écrit Enceinte du creux de tes hanches. Ne vous méprenez pas, c'est pas du tout porno. Hein. C'est pour nous, mais c'est pas porno. Hein. Enceinte du creux de tes hanches, ma tête est bercée d'un roulis qui me coule. Alors, attention, hein, c'est pas un coulis, hein. Vous voyez, un coulis de framboise, par exemple, non, c'est pas ça. Hein. Bon. Mes songes dessinent un virage sans fin. Ils se courbent, comme la tienne. C'est doux comme du miel. C'est une vague folle, comme une valse accordée à tes pas. Chacun d'eux me mène à ton château de femme, posé au sommet de tes monts dorés. C'est de beauté qu'ils me convoquent pour mieux t'admirer. C'est alors les genoux pliés que j'avance vers ton délicat, enceinte du creux de ton va-et-vient, ma tête est martelée d'un fer aussi rouge que l'envie. Mes rêveries sont un hymne à ton égérie. Elle me parle du courant de ta houle. Elle me chante tes vagues ensorcelées. Celles qui font perdre le nord pour n'aboutir qu'à ton sud. C'est d'un sable aussi doux que tes yeux, aussi chaud que torride dans ton et ton soleil, aussi clair que l'est mon amour pour toi, un seul clair de lune sans toi et c'est Pierrot qui s'invite. Je lui vole alors sa larme, pour la poser sur ma joue. C'est une tristesse nommée chagrin qui s'empare de moi. Pour faire de mon cœur un chant de sirène, je ne suis plus qu'un mineur au fond de ton majeur, un pantin coupé de ses fils et leur histoire. Alors, enceinte du creux de ton éclat et ta lumière, ma tête ne se nourrit de songes en attendant ton sourire. Elle imagine tes vagues de soupirs dans le flux et le reflux de mon va-et-vient. Mon corps s'abandonne à ton image couleur mirage. Alors, il y a plein de petits sous-entendus quand même, faut pas exagérer. Bon, mais c'est beau, c'est pas cru, même si vous l'avez cru. Bon. Alors, j'en reviens à Prévert, parce que je vais vous faire un cadeau. Et alors, Prévert a fait des poèmes. Alors, j'ai plusieurs livres. Alors, le livre-là s'appelle Jacques Prévert, Choses et autres. Choses et autres. Il est vieux, c'est... D'abord, les pages sont toutes jaunes. Alors, c'est pour vous dire, Alors que c'était du papier blanc, c'est sûr. Attendez, à la fin, il a... Ah, voilà. Ah, 1979, c'est pas si vieux que ça, tout le monde sait. Alors, c'est parce qu'ils ont imprimé sur du mauvais papier, et il a jauni, voilà. Voilà, comme les dents. Ah, ouais, ceux qui mâchent du papier, vous avez vu Ils ont les dents jaunes, Ah oui, c'est pareil. Écriture sainte. Dieu est aussi le maire d'un grand village. Et quand c'est le jour de sa fête, cela s'appelle la fête Dieu. Sur la grande place, un grand mât est dressé. C'est le mât de Cocagne, du bien et du mal. Et les villageois grimpent. Mais il arrive souvent que le maire ne se rappelle pas très bien ce qu'il a accroché là-haut. Il n'a plus sa mémoire des anciens temps. Il y en a qui sont montés avec... une jolie tête d'enfant et qui redescendait avec une grosse tête de serpent à lunettes, une tête de pierre tombale, une tête de savant méchant. Et celui qui n'aime pas les œufs redescend avec un coquetier. Coquetier, voilà. D'autres, qui étaient montés avec le sourire, redescendent en faisant une grimace. La sainte ampoule aux mains, les aviateurs redescendent en flammes et les libres penseurs en soutane. C'est pas facile de descendre d'un mot de cocagne en soutane, je vais vous le dire, Et le diable joue du tam-tam et Dieu est tout à fait fâché. Avec cette percussion du diable, on n'entend plus les célestes trompettes de la renommée. Dieu est aussi le grand Manitou des fleuves, des bois et des mers, des lacs, des terrains vagues et des jardins publics. Le diable est un grand poulpe qui attrape les pêcheurs par le fond de la culotte et par les sentiments. Et il les jette en face contre la terre, dans le fond de la mer, au pied du directeur. Le directeur en pardonne la moitié, au hasard, et renvoie l'autre moitié au diable et la condamne à vivre dans un malheur glorieux. Puis il remonte au bord des eaux avec sa grosse pipe en terre sainte et son grand chapeau de paille et de poutre. C'est quand même bizarre, ce mec. Bon, mais c'est du Prévert. Et il pêche à la ligne tout ce qui lui tombe sous l'hameçon, quand c'est du poisson, il jubile. Mais quand c'est une vieille paire de chaussures, il se met en colère. Et il envoie à séance tenante cette épouvantable épidémie de furoncles, de clous et un déluge de poids chez tous les cordonniers des 4 ou 5 parties du monde qui n'en peuvent plus. Mais on va voir vraiment si le cordonnier est maître chez soi ou si c'est moi qui commande, Nom de quoi ? Demande le diable d'un air innocent. Mais Dieu reviendrait, astre et se réfugie dans le vent. Dieu est un grand ordinateur des pompes funèbres. Parce que c'est des nécrophages, ces mecs, les pompes funèbres. Oui. Vous verriez les gens qui portent les cercueils. Ils ont une gueule. Ils ont la gueule triste. Alors il paraît que c'est de circonstance. Mais un petit sourire. Aux morts, ça ferait pas de mal, quand même, Bon, je continue. Faut que ça roule, dit-il, quand il voit les corbillards passer. Ben oui. Si ça ne roulait pas, si ça s'arrêtait, vous parlez d'un embouteillage, depuis le Moyen-Âge, et même jusqu'au jugement dernier. Vous vous rendez compte, depuis le Moyen-Âge, si les corbillards ne circulaient pas, non, mais ça serait complètement dingue. Hein. Et qu'on serait obligé de donner à manger aux morts, et sur place dans le corbillard, hein, puisqu'ils ne seraient pas encore en terre. Oh. Alors ça roule, et c'est lui qui fait rouler. Souvent, le diable est assis sur le siège, avec cette bonne tête de cocher. Il galope toujours trop vite, et tous les gens de la famille ont des points de côté. Ah, ça m'est arrivé, c'est à moi d'avoir des points de côté. Mais pas à la suite d'un enterrement. Hein, le corbillard roule doucement. Quand il roule vite, les gens ils sont dans le corbillard. Hein, parce qu'il y a des places pour les vivants. Hein. Alors on ne peut pas mettre toute la famille. Hein, si par exemple le papa il meurt et qu'il y a 18 gosses, plus la femme, et souvent quand il y a 18 gosses, il y a plus qu'une femme, il y en a plusieurs hein, dans ces cas-là. Quelle est la femme qui ferait 18 gosses hein, alors qu'il faut 9 mois à chaque fois. Vous vous rendez compte hein. Allez, bon. Des fois aussi, il les laisse tomber tout à fait, et il s'en va très loin avec le décédé. Très loin, jusque dans les montagnes de Cachemire. Et là, il cache le mort. Ah oui, comme a fait d'esprit, Cachemire, il cache le mort. Oh le prévert, franchement. Et la famille doit casser la tirelire pour savoir où il est caché et pour le ramener de là-bas dans un cercueil plombé. Ouais. Dieu est une petite aiguille de la pendule. Le diable, c'est la grande. Et elle tourne la petite aiguille pour que la grande aille plus vite. Mais la grande aiguille s'en fout. Elle s'arrête de temps en temps et s'aligne sur le clepsydre, l'horloge des chiens. Ouais. Dieu est aussi une grosse pierre qui roule sur elle-même sans se faire de mousse. Ah oui, vous savez, la pierre qui roule n'amasse pas de mousse. Hein. Ah, c'est connu ça. Quand Dieu est une grosse pierre comme ça, le diable est une petite pierre à briquet. Comme s'il se cache dans les reins de Dieu. Ah oui, il y a des cailloux dans les reins. Vous voyez la subtilité un peu, hein, des calculs même. Hein. Donc le diable calcule dans le rein de Dieu. Vous vous rendez compte? Ah, qu'est-ce qu'il est fort ce prévert, franchement. Il fait des allusions, mais voilà. Pas des allusions, je vous dis, des allusions. Mais il est fort, hein, parce que moi, je ne pensais pas que des pierres à briquet dans les reins, vous vous rendez compte? Enfin, il l'a allumé, quoi. Il l'a complètement allumé, quoi. Bon, et il lui fait pisser le sang. Ben oui, je vous l'avais dit, hein. Mais bien qu'il ait beaucoup à souffrir, Dieu est tout de même assez fier, parce que sa vessie est pleine de lumière. Attendez, c'est pas fini. Dieu est aussi un grand fauteuil. Les escabeaux sont ses fidèles. Il trône au rayon des meubles. Et dans les sous-sols du grand uniprix du ciel, les escabeaux, les petits bancs et les chaisières, avec leurs grands troupeaux de chaises, attendent le miracle, toutefois, tant de fois prédit. Le jour où le grand fauteuil réussira à s'asseoir sur lui-même, à la grande confusion des méchants. Ce grand jour-là, les meubles seront jugés sévèrement, surtout les lits et les divans. Ben oui, parce que les lits et les divans, il se passe toujours des choses qui ne sont pas très catholiques. Hein. Bon, je peux vous le dire. Hein. Bon. Je ne peux pas vous le dire, parce que d'abord, je ne vous le dirai pas. Dieu est aussi quelquefois un vieux clochard qui couche sous les ponts, et les étoiles se moquent de lui la nuit. Et il pleure sur sa misère, sur ses gros et petits ennuis. Alors il tire le diable par la queue, et le diable gueule comme un âne. Et ses cris bercent la misère et le sommeil de Dieu. Il rêve qu'il va et qu'il vient comme un beau vieux temps, quand il est encore le gros directeur du tout venant. Autodidacte, Dieu est néanmoins grand polygraphe et non moins grand autobiographe. Parce qu'on est compte, Dieu, il a 2000 ans, on est combien de millions de morts depuis? Il a fait toutes les autographies de tout le monde, vous vous rendez compte? Alors après se proclamant auteur du monde, un grand ouvrage, il prétend s'en réserver tous les droits, mais sous la table des matières, diable se cacha et l'a fait tourner à l'envers. Voilà, vous rendez compte, oh c'est beau, oh, j'aurais aimé tant aimer écrire comme lui, oh. Mais je vais me rattraper, je vous le promets que je vais vous faire quelque chose d'aussi beau, c'est promis. Alors peut-être pas vendredi prochain, parce que, vous savez, on va être au mois de mai, et c'est le mois où il y a le plus de feignants. Il y a trois ponts, et puis il y a des ponts de 4 jours, c'est pas des ponts de 3 jours. Hein. Ah oui, alors là, c'est... On a, d'ailleurs, cette année, ils vont appeler ça les viaducs. Ils ne vont pas dire les ponts, c'est les viaducs. Millau, il a intérêt à bien se tenir, hein, le pont de Millau, parce que là, le viaduc de Millau, parce que là, il va être dépassé par les viaducs du mois de mai. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. Bon. Alors, je vais vous passer comme un... Alors, comme vous avez vu, on fait un spécial Prévert, là. Hein. Bon, il n'y a pas de secret. Hein. Vous avez déjà compris ça. Hein. Alors, Fou de misère, de Jacques Prévert.
Fou de misère. Fou de misère, cavalier d'abattoir, dame des halles, abandonnée, reines et rois du plus haut du pavé. Encore une fois écroulé, naufragé, désarçonné parmi tous les débris d'une trop vieille épave. Radeau de la misère, échoué et médusé. Jeu d'échecs, bois pourri, damier percé. Fou de misère, reines et rois du plus haut du pavé. Cavalier d'abattoir, dame des halles abandonnée, reines et rois du plus haut du pavé. Pourtant, malgré le désespoir, ils poursuivaient leur vie et voulaient la gagner. La vie qu'ils poursuivaient, c'était leur vie rêvée. Fou de misère. Mais leur vraie vie de plus en plus désespérée, leur vie de chien fidèle et de chien policier, leur petite meute personnelle, les traquer, les pourchasser. Fou de misère. Encore une fois, la misère qui les affolait, pour les calmer, tranquillement les a fusillés, là, sur les berges de la Seine, dans les ruines des plus vieux pavés. Non, sans leur avoir gracieusement octroyé le plus petit dernier mégot du plus pauvre des condamnés, avec le dernier verre de l'aigre vin de mai. Et le soleil, compatissant à leur souffrance, généreusement leur a donné le coup de grâce. Et dans leur sommeil torride, leurs plus accablants soucis restent en rade. Hélas, ce coup de grâce n'est qu'un instant donné. Le soleil, à son heure, doit les abandonner. Et dans les derniers feux d'un tendre crépuscule, la police du fleuve bientôt va les siffler. Fous de misère, arrachés au sommeil, pauvres gibiers trop tôt levés, le cœur battant très mal, comme un mauvais réveil à peine remonté, en courant sur les berges, sans savoir où aller. Ils parleront tout haut, chacun pour soi tout seul. Mais chacun dira la même chose, triste et folle. La jeunesse perdue, ou même jamais eue, mais jamais oubliée. Fou de misère, malgré tout, attaché à la vie. Un espoir enfantin leur tiendra compagnie.
Et voilà, fou de misère. Oh là là. Alors bon, on va changer un petit peu Jacques Brel. Hein. Là, j'ai un poème qui a été écrit par Belkacem Bonagria. Ça s'appelle « La page 237 n'existait dans aucun livre ». Vous doutez bien que c'est un conte, hein, que ce n'est pas possible. Hein. Ou alors, ça veut dire que l'imprimeur se mettait la page 237 à chaque bouquin qu'il imprimait. Mais bon, ça ne se fait pas, ça. Hein. Moi, j'étais imprimeur, je n'ai jamais fait ça. Moi. Alors, des fois, oui, j'ai piqué le livre, mais piqué un exemplaire parce que ça me plaisait. J'ai par exemple un livre qui a... Ben, écoutez, c'est bien simple, il a plus de 60 ans maintenant, hein, ce livre. C'est une revue sur l'architecture. Et c'est un numéro spécial sur Le Corbusier. Je vais aller voir sur Internet combien il coûte ce bouquin maintenant. Parce que vous savez, il y a une sacrée spéculation sur les vieux livres. Hein. Je peux vous le dire, moi. Hein. Moi, j'ai vu des livres à moi que je vendais 15 euros. Je les ai vus à 45, 50 euros sur Facebook, sur les sites à la con des mecs qui vendent des bouquins. Hein. Vous vous rendez compte, les voleurs, hein. Alors, bon, lui, je ne sais pas pourquoi, hein, mais il va nous le dire. Léon travaillait à la médiathèque du quartier Saint-Jules, troisième rayon à gauche, responsable du classement fiction de A à Z et des documents sensibles, catégorie inventée pour tout ce qu'on ne savait pas où ranger. Un jour, une femme a demandé « Est-ce que vous avez le roman avec la page 237 ?»« Quoi ? Pardon ? La page 237 ?» C'est là qu'il me l'avait écrite, la phrase, mais je ne retrouve plus le livre. Je n'avais pas le titre, pas l'auteur, rien. Juste, je me souviens du papier, un peu jauni. Oui, lui aussi, il le dit que le papier est jauni. Hein. Et une phrase, quelque chose comme « Tu étais là avant que je sache te nommer. Léon a trouvé ça beau, mais bizarre, il a fouillé. Pas de résultat. Le lendemain, un étudiant est venu. » Le lendemain. Même question. Il paraît qu'il y a un livre quelque part où la page 237 change à chaque lecteur. Et c'est toujours une phrase qu'on avait besoin de lire. Léon Harry, puis il a commencé à chercher pour de vrai. Pendant des semaines, il a vérifié tous les livres de plus de 236 pages. Rien. La page 237 était soit blanche, soit manquante, soit sans importance. Mais les gens continuaient à venir. J'ai vu la page, j'en suis sûr. Je me suis endormi avec le livre ouvert dessus. Le lendemain, il n'y avait plus, il n'y était plus. J'ai prêté le livre à quelqu'un, il l'a gardé, et il a oublié qu'il me l'avait pris. Un jour, Léon a trouvé une fiche glissée dans un roman oublié, pas de couverture à la page 236, un marque-page. Et sur le marque-page, écrit au crayon, « Si tu cherches cette page, si tu cherches cette page, c'est qu'elle a déjà été en toi. Le livre ne fait que de te le rappeler. » Depuis, il ne cherche plus. Il lit, mais puis laisse les pages 237 inventées dans les livres qu'il prête. Une phrase, une sensation, une adresse oubliée. Il ne signe jamais. Et parfois, quelqu'un revient ému et dit « Je crois que je suis tombé sur la page. » Elle et même m'a réparé. Il sourit et je sais que dans ce livre, comme dans la vie, ce qui n'existe pas est parfois ce que l'on trouve le plus fort. Voilà. Alors moi, je vais être obligé de... je viens de dire ce poème là. J'ai 5000 livres chez moi. Je suis obligé de regarder tous les livres si la page 237 est encore là. On les compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider? Non. Edwige. Ah, tu sais pas lire? Ouais, mais tu sais compter quand même. Je te demande pas de lire la page 237. Je te demande de me trouver si la page 237 n'y est pas. Hein? Parce que la plupart de tous mes livres ont plus de 237 pages. Hein? La plupart, bon. À part mes livres à moi, où je crois que... Attendez, je raconte pas de conneries, combien j'ai de pages, moi. Hein? 110 pages, hein, la plupart. Mais, parce que c'est des petits bouquins, hein, c'est pas l'encyclopédie Univaris ou le dictionnaire copié par Robert. Hein? Bon, hein? Alors, je vais vous lire un poème là, dans mon dernier livre, mon livre unique, Le Balade poétique au travers d'un prévert, tome 2. Ça s'appelle La gare de triage. Il me reste encore un peu de temps. Oui, c'est bon. J'étais en gare de triage au moment où les wagons se décrochaient. Et tout à coup, je m'aperçois qu'il n'y avait plus de papier à cul. Oh, bien m'en a pris. J'avais dans la poche de mon pantalon, qui était tombé sur mes babouches, pour la circonstance, la dernière feuille d'imposition des trois nains et de l'oncle incarné qui se conservaient sur le problème des protège-slips en coton. Et du coup, je m'aperçus que mon propre protège-slip était en fait très sympathique. Donc, quasiment inusable, à condition de le laver sur coton, les bourses ayant quelquefois retombé dans le niveau le plus bas. Je parle des bourses, la bourse, hein, vous savez, la 440, ceci, cela, je ne parle pas des miennes. Hein. Elles n'ont aucune valeur. Mais qu'avais-je fait là? La dernière crotte sortie de mes trouvailles avait séché au point que la virgule ne voulait plus se détacher de ma personne pour rejoindre ses copines dans cette eau aseptisée. Oh, oh. Il me fallut me prendre par la main pour extirper la rebelle, alors que mes bretelles attendaient la remise à niveau. Mais niveau ni cochon avait crié que c'était comme cela pour devenir la meilleure thérapie. De la terre pour les pies. Hein. Donc les pies, vous savez, ceux qui volent les bijoux, là. Hein. Bon. Elle est encore un oiseau qui ne regardait plus sa place au fond de culotte. Et par voie de conséquence, c'est pour cela que je n'ai pas réussi à me torcher en y laissant des traces de frein sur la ficelle de mon string de tout neuf. Et ce fut écrit sur le trône. En 2019, un 29 janvier, à 13h17. Plaf, c'est tombé. 13h17, pile. Oh, vous en savez des choses sur moi. Hein, oh. Ben oui, j'ose, moi. J'ose me découvrir. Bon, comment voulez-vous me connaître si je vous en parle, si je m'en raconte pas un peu plus, quand même, hein? Bon, allez, pour la peine, le désarroi est assis sur un banc, par Jacques Prévert.
Le désespoir est assis sur un banc. Dans un square, sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit ninas, il est assis. Il vous appelle quand on passe, ou simplement il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder, Il ne faut pas l'écouter, il faut passer. Faire comme si on ne voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe. Et rien, personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors il vous regarde et sourit. Et vous souffrez atrocement. Et l'homme continue de sourire, et vous souriez du même sourire, exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez irrémédiablement. Et vous restez là, assis, figé, souriant sur le banc. Des enfants jouent auprès de vous, des passants passent tranquillement. Des oiseaux s'envolent, quittant un arbre pour un autre, et vous restez là, sur le banc. Et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants, vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants, que jamais plus vous ne vous envolerez, quittant un arbre pour un autre, comme ces oiseaux.
Et voilà, c'est doux, hein, c'est calme. C'est presque fini d'ailleurs. Oh non, il y a 2 minutes. Oui, 2 minutes. Alors, vous savez ce que c'est les haïkus? Ou haïku, comment on dit haïku? Haïku. 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 Oh. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Voilà. Alors, Robert Laffitte, où ça? Où ça, c'est son nom. Hein. C'est pas où ça, où elle est. Non, c'est sur la plage blonde. Et dans les rêves du soleil, je retiens le temps. Paulette Evano, c'est un long chemin, fait de ronces et d'épines, donne-moi la main. Bon, je vais arrêter, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est complètement con. Moi, j'écris mieux que ça, quand même. Hein? Bon, allons, on va essayer d'en trouver un bien. Jean-Claude Fournier, feuille de l'azur, le papillon de l'été en plein soleil rame. Mais c'est nul! Mais je comprends pas les haïkus, moi, je sais pas, c'est des gens qui sont pas capables d'écrire plus de 3 lignes, hein, vous rendez compte? Alors, il paraît que c'est 3 lignes, les haïkus, hein. Mais alors moi, c'est pas des haïkus, c'est des quoi, moi? C'est des aïe 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 haïkus, hein, aïe 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 haïkus, hein. Bah oui, bon, ben je laisse tomber, parce que là, franchement, je suis désolé de vous avoir lu ces trucs... À la con, là. Je sais que vous êtes déstabilisé maintenant, bah oui. Bon, c'est normal, bon. Attendez, des poèmes de trois phrases. Et c'est des petites phrases, hein. Si encore c'était des phrases qui faisaient plusieurs lignes, mais c'est pas le cas. Ça fait quoi? Ça fait même pas une ligne. Tout dépend de la largeur de la ligne, bien sûr, hein, vous allez me dire. Hein. Parce que vous avez des lignes qui font toute la largeur de la page, et vous avez des fois des 3 colonnes, ce qui vous fait des petites lignes. Mais ça vous les fait 3 fois. Mais c'est pas le même texte, hein. Bon. Moi, je vois, par exemple, ma revue de poésie que je fais depuis 24 ans, je mets 3 colonnes à chaque page. Alors, j'ai des copains qui gueulent parce que je coupe les phrases. Mais je dis, tu me fais chier, t'as qu'à le faire toi-même, ton bouquin. Bah oui, quoi. En plus, je leur fais gratos. Hein, la mise en page, installer des photos, trouver des fois des photos, des dessins qui vont avec leur texte. Hein, et puis après, je le fais imprimer à mes frais. Hein, oui. Depuis 24 ans, vous vous rendez compte? L'argent que j'ai perdu. Oh, bah oui, mais bon, heureusement, je suis un poète. Quoi. Un poète, ça dépense sans savoir. C'est, l'argent n'a aucune valeur pour un poète. Hein. Qu'est-ce qu'a la valeur pour un poète? Bah, les rimes. Hein, comment je peux dire? Comment ils appellent ça? Les rimes, les acrostiches. Voilà, des trucs comme ça. Hein, savez. Et ça rime, hein? Et ça rime. Oh là là, je vais être obligé de vous laisser, hein? Bah oui, bon. On va pas rester encore tous ensemble? Non mais attendez, il faut que vous allez faire la vaisselle, et vous aussi, hein? Bon, allez, je vous dis, alors je sais pas quand est-ce que je vous reverrai, parce que avec cette histoire de pont, ça devient vraiment con. Allez, je vous aime.